Bien, donc si vous voulez bien reprendre place, nous allons poursuivre nos échanges. Et je laisse à Patrick Longuet, qui ne va pas tarder à nous rejoindre, le soin de présenter cette table. Patrick Longuet est un grand lecteur de Claude Simon, dont il a été très proche pendant de longues années. Il est l'auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Lire Claude Simon » paru aux éditions de Minuit. Et plus difficile à trouver aussi d'un très bel ouvrage qui a été publié par l'ancêtre de l'Institut français sur Claude Simon et qui était destiné à faire connaître Claude Simon à travers le monde. Donc un ouvrage, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais qui était particulièrement bien réalisé avec toutes sortes de documents justement.
Bonjour. Je vais donc donner la parole à Brigitte Ferrato-Combe qui, merci, a travaillé beaucoup sur la relation de Claude Simon à la peinture, ainsi qu'à Yves Perret, et qui est, enseigne à l'université de Grenoble, en attendant qu'elle s'appelle peut-être un jour Alpes, si je crois les rumeurs, et ainsi qu'à Yves Perret, qui a eu beaucoup de rapports à la littérature, d'abord en tant qu'auteur, puisqu'Yves Perret écrit de la poésie, ensuite en tant que, je vais faire exprès de proposer quelque chose de tout à fait différent, en tant que directeur de la bibliothèque Jacques Doucet, donc autant dire une fonction aux antipodes de l'écriture poétique, même si elle le mettait sans doute en contact avec les fonds poétiques que recèle cette bibliothèque, et puis aussi comme sensibilité, si je puis donner un nom propre à une sensibilité, en rapport avec ce qu'on appelle au XXe siècle les livres d'artistes, c'est-à-dire des livres écrits parfois par des artistes, parfois qui sont le fruit d'une collaboration entre des écrivains et des peintres. Il n'y a pas de préséance, ça peut être des collaborations entre des peintres et des écrivains. Voilà. Alors, pour présenter rapidement, puisque... J'imagine que si vous êtes là en nuançant vaguement ce qu'a dit Monsieur Bergougnou, c'est quand même que vous êtes intéressé par Claude Simon et que malgré les temps qui passent et l'alphabétisation, vous faites partie tout de même d'une élite. Et donc, je vais articuler rapidement ce que peut être pour Claude Simon strictement sa relation à la peinture, puisque cette relation est vraiment très très riche. D'abord parce que Claude Simon au départ, voulait être peintre, qu'il a même peint un certain nombre de tableaux qui ont tous disparu à sa demande dans une sorte d'auto-da-fé qui a eu lieu à Sals et qui fait que ces tableaux aujourd'hui n'existent plus. Qu'est-ce qui a interdit à Claude Simon de devenir peintre? On pourrait supposer que c'est par exemple l'existence de Cézanne. Il écrit dans un manuscrit... qui est peut-être déposé dans la bibliothèque Jacques Doucet, il écrit qu'après s'être essayé à la peinture, il avait découvert un jour où il pensait avoir accompli ce qu'il se projetait de plus secret, de plus désirable et de plus achevé, il avait enfin peint un Cézanne. Et que donc c'était la preuve qu'il n'était pas peintre. Cette interdiction, d'une certaine manière, cette interdiction du fait d'une sorte de génie qui empêche à celui qui voudrait venir après de s'exercer dans le même art, n'empêche pas que pour Claude Simon, la peinture soit demeurée un art essentiel à son travail d'écrivain. Premièrement, il y aura quatre points rapidement dits. Premièrement, parce que, au sens le plus simple, Claude Simon, dans son œuvre, et je crois tout à l'heure qu'a été cité... le cas de David, prend des tableaux qu'il décrit et que parfois il anime, Mais ça, je laisserai le commentaire de cette technique qui a été baptisée par certains critiques parce que sans doute le grec fait du bien à la conversation lettrée, qui a été rapportée à l'ekphrasis, c'est-à-dire cet exercice ancien de la description de tableaux pour justement travailler la langue en ayant comme discipline un tableau de référence qui permettait de voir ou d'évaluer ce que pouvait valoir la description. Claude Simon s'est livré à ce travail à l'intérieur de ses romans à plusieurs reprises. On peut citer des exemples de tableaux. Si vous avez vu l'exposition, vous avez vu le très beau film d'Alain Fleischer, Claude Simon et la peinture, et vous avez pu voir donc un certain nombre de tableaux qui font l'objet d'un exercice de ce type. Deuxièmement, on peut dire que Claude Simon, par rapport à la peinture, a aussi eu un certain nombre de relations avec des peintres vivants. Pour tous ceux qui ont écrit ou eu à commenter des œuvres, l'expérience de l'écriture à propos d'un artiste vivant, qu'il soit Alain Fleischer rassemblait les écrivains et les peintres sous le même mot d'artiste, ce que je trouvais très, très juste, vous savez que ça suppose un certain nombre d'attentions, de précautions qu'on n'emploie pas toujours ou auxquelles on n'a pas toujours recours quand il s'agit de mort. Hein, on se sent débarrassé peut-être parfois de précautions critiques. Or, Claude Simon a fréquenté, ça a fait l'objet d'une édition, par exemple, Dubuffet. La correspondance entre Dubuffet et Claude Simon est éditée. A fréquenté Miro, a fréquenté quelques autres. Là encore, j'imagine que nous entendrons de façon plus précise que je ne l'évoque là, cet aspect-là de son rapport à la peinture. Dans un troisième... tout autre ordre de préoccupation, Claude Simon a tiré de la peinture, de l'exercice de la peinture, ce n'est pas directement de tel ou tel tableau, un certain nombre de références esthétiques au sujet de ce que doit être une œuvre d'art. Une sorte d'exigence que les peintres lui auraient fait apparaître plus clairement que les théoriciens de la littérature n'y parvenaient. Et parmi les peintres auxquels il a pu s'intéresser à ce titre, il y a bien évidemment Cézanne, mais il y a aussi Poussin, que Cézanne admirait d'ailleurs. Et c'est tout un domaine, si vous voulez, qui serait... Le credo de Claude Simon, on pourrait presque faire revenir ici Pierre Bergougnoux, puisque Pierre Bergougnoux écrit de la littérature et sur la littérature, et que lui-même doit se préoccuper, j'imagine, de ce type de réflexion. Et enfin, un dernier point qui me paraît important, c'est que Claude Simon a collaboré à un certain nombre d'ouvrages du type de ceux qui intéressent Yves Perret, c'est-à-dire des livres écrits en collaboration. Il y a le très beau livre publié chez MAG qui s'appelle « Femmes », mais il y a aussi des contributions à des revues, « Doux », par exemple, qui est exposé aussi dans la bibliothèque au-dessus. Et que ces collaborations donc supposent qu'ils se soient préoccupés, Orion aveugle évidemment que j'oubliais parce que c'est l'évidence, ces collaborations l'ont amené à se poser d'autres questions quant au rapport que peut entretenir un texte avec, j'emploie le mot ici avec des guillemets, avec une image, sachant qu'une peinture n'est pas nécessairement une image. Et enfin, je conclurai par deux cas particuliers qui me paraissent marquer les collaborations de Claude Simon à la peinture. Le premier, c'est le nom propre de Picasso, qui fait l'objet dans ses manuscrits d'une esquisse de portrait dont une partie dactylographiée figure dans le jardin des plantes sous la forme d'une tête de rat. Mais ce sera commenté sans doute mieux que moi par les deux invités que j'essaye de présenter. Et la seconde partie, écrite à l'encre, n'a pas été publiée. Et la troisième partie, écrite au crayon à papier, montre à quel degré d'inachèvement est ce portrait qui, pour éviter d'éveiller des curiosités qui ne seraient frustrées, qui nous campe un Picasso dans son atelier en train de recevoir un poète manifestement un peu pédéraste que Claude Simon décrit dans ses minauderies devant le maître. Voilà. Et le mot pédéraste est entre guillemets, il n'est pas de moi, il est utilisé, mais il est d'époque. Donc comme je me méfie maintenant avec toutes sortes d'appellations qui sont de moins en moins contrôlées. Et donc, voilà pour ce portrait. Et puis, l'autre cas, ça c'est pour m'amuser un petit peu, Claude Simon a écrit un certain nombre de textes directement sur des tableaux. Alors, il y a le cas de ta pièce, mais je crois que, ben voilà, Yves Perret, vous voyez, moi j'ai la chance de pouvoir me reposer sur des érudits. Et puis, il y a le cas aussi de Odette... j'ai oublié le nom. Pardon.
Lucas.
Voilà. La femme de Robert Morel. C'est ça, la femme de Robert Morel. C'est pour ça que moi je la connais via sa fille en fait, Marie Morel, qui était le même artiste
c'est
peintre.
Lucas.
Voilà. Donc Claude Simon a écrit des textes dans des catalogues d'exposition qu'elle avait proposés, ainsi que des commentaires de certains de ses tableaux. Ce que peu de gens savent, et je voulais un petit peu d'inédit dans ma présentation. Alors, je vais donner la parole peut-être d'abord pour revoir ce qu'on peut faire devant un tableau quand on écrit, à qui veut l'apprendre, ou sinon, peut-être que Brigitte peut commencer pour dire ce que Claude Simon fait, et puis Yves Perret ensuite.
Alors, je ne vais pas dire ce que Claude Simon fait, parce que ce serait... une vaste entreprise. Je citerai simplement, pour commencer, la façon dont il se définit lui-même par rapport à l'image. En 1988, il écrit donc un texte en préface au catalogue de l'exposition « Les tapièces de tapièces » qui a lieu au musée Cantini à Marseille, donc d'octobre 88 à janvier 89. Et... il s'agit des tableaux de la collection personnelle de Tapiès. Et Simon donne une préface, exercice auquel il se livrait très rarement, seulement pour des peintres dont il était proche. Tapiès, Novelli en 1962, donc longtemps auparavant. Et puis ce dont parlait Patrick... et aussi pour des œuvres qui entraient en consonance avec son propre travail. Il était ami de beaucoup d'autres peintres sur lesquels il n'a pas écrit. Mais donc, sur ta pièce, il écrit un texte sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais je vais commencer par la conclusion, dans laquelle il se définit comme amateur en jouant sur le double sens du terme. Qu'Anthony Tapiès donc me pardonne ce maladroit hommage, ces maladroits commentaires. Ce sont ceux de l'amateur que je suis, amateur d'images, d'énigmes, de signes, de traces, laissés par l'homme aussi bien sur des parois de cavernes que des murs, des pièces de bois, ou encore sur ces supports plus fragiles, moins fiables, hélas, que sont les minces feuilles de papier où j'écris ces lignes. Le texte me paraît intéressant pour commencer parce qu'il pose... la notion d'amateur d'abord par rapport à spécialiste en négatif, et Simon n'a jamais eu de prétention à être critique d'art ni historien d'art. Bon, il était autodidacte, mais il aurait peut-être pu être l'un et l'autre. Sa connaissance de la peinture et sa capacité à en parler de l'intérieur auraient pu lui permettre, mais il s'en est toujours éloigné. Mais on voit bien comment il joue ensuite sur le sens positif du terme, amateur d'image au sens fort, donc passionné de peinture, il l'a toujours été. Et on note aussi que ces images, le terme pourrait effectivement être glosé, ne se limite pas à la peinture et certainement pas aux tableaux de musée. Hein, mais bon, il cite les traces sur les murs, soit parois de cavernes, soit graffitis. Et on voit, enfin, dans ces quelques lignes, il résume en quelque sorte, à une date bon, déjà relativement tardive, 88, tout ce qui fait sa position par rapport à la peinture. Et c'est pour ça que je voulais commencer par ça. D'autant que dans la fin de ce que j'ai lu, il se définit comme écrivain, avec cette façon toujours de présenter l'écriture en creux presque par rapport à la peinture, hein, ces supports moins fiables, plus fragiles, moins fiables, hélas, que sont les minces feuilles de papier. Et c'est une constante dans le discours de Simon sur la peinture que toujours, il semble qu'elle ait une évidence que l'écriture n'a pas forcément. C'est quelque chose qui est assez frappant. Mais il se montre aussi toujours soucieux de rapprocher l'écriture et la peinture dans une même réflexion ou rêverie sur le signe. Et cela, on aura aussi l'occasion d'y revenir. Voilà, donc d'abord amateur d'images, je crois que c'est une chose qu'on peut poser au début de cette réflexion et qui ouvre à beaucoup d'autres propos.
Excusez-moi, j'ai relevé deux expressions chez Brigitte qui peuvent parler à M. Perret. Parler de l'intérieur de la peinture ou rêverie sur le signe. Il me semble que c'est quelque chose qui peut vous inspirer par rapport à ce que vous avez fait d'abord avec Claude Simon, puisque vous en connaissez, puisque vous avez vécu.
Oui. Là, on nous demande, c'est le titre même de notre table ronde, Claude Simon et la peinture. Alors, tout ce qui vient d'être dit est fort juste. Mais on pourrait presque dire, quelque part, sans abuser, comme on aurait pu le dire tout à l'heure de l'histoire, Claude Simon ou la peinture. Même Claude Simon ou le visible. C'est quelqu'un, effectivement, Claude Simon, qui était épris de figurable, mais aussi de la figuration de l'infigurable, donc de tout ce qui était l'image, sous toutes ses formes, à travers tous les médiums, toutes les époques. Il était passionné par ça. On aura l'occasion d'y revenir, y compris, je reviendrai peut-être tout à l'heure, sur la passion ou la grande référence qui était pour lui Elifort sur ce terrain-là, qui était au fond comme un bréviaire, les livres d'Elifort, dans lequel il allait toujours vérifier. Comme si, au fond, une vérité possible bien sûr, probable peut-être, avait été dite sur la figuration. Ce qu'il y a chez Claude Simon, c'est qu'on se trouve, certes, un amateur, un amoureux de l'image, il ne serait pas très différent de Baudelaire, au fond, de ce point de vue-là. Mais Claude Simon est dans une position assez unique. Quelques-uns, par exemple son ami Robert Pinget, a lui aussi été un homme de pratique plastique. Mais chez Claude Simon, ça avait pris un tour plus grand. Je ne crois pas trop à Cézanne comme blocage. Je vais dire pourquoi. C'est que chez lui, le rapport, au fond, à la peinture, à la plastique, aux arts, employons des mots prudents, au fond, parce que c'est multiple, parce que c'est toute l'image, se nourrissait d'une vraie pratique. Ce que Claude Simon avait voulu être au départ, c'est un artiste, c'est un peintre, et il l'avait été. Mais c'est là où la lucidité a été très forte chez lui. Il savait quelque chose. Cézanne, vous avez parfaitement raison, était une gêne magnifique pour des dizaines d'artistes, pour tous. Mais tout le monde devait surmonter Cézanne. Et surmonter Cézanne était la preuve qu'on était un artiste. Claude Simon probablement n'a pas pensé qu'il pouvait surmonter Cézanne. Mais surtout, il a estimé qu'il était dans une dimension du cubisme, de la deuxième ou troisième génération, du troisième moment, c'est-à-dire celui de la retombée. Il n'était pas dans ce beau moment, qui était celui de Braque, de Picasso et de Léger, voire même de Gris ou de Lawrence. C'est-à-dire Braque, Picasso et Léger qui avaient dû surplomber Cézanne. Par exemple, Cézanne avait bloqué pendant 5 ans Léger, pendant pas mal d'années Braque. Et pour autant, un jour, ils ont dépassé. C'est ce que la double question, c'est Cézanne comme indépassable, certes, mais aussi n'être plus dans l'élan qui portait. Dans l'élan qui portait, c'est-à-dire être voué au cubisme, parce qu'il y avait une alternative, où on était contre le cubisme et on dépassait la question, où on est dans le cubisme, mais passé une certaine époque, on était dans un second temps et dans un moindre temps du cubisme. Ça, c'est ce que Claude Simon, génialement, a vu. Il a vu à la fois la limite de l'époque dans laquelle il se trouvait par rapport au cubisme et la limite de son acte qu'il voulait important, l'impossibilité de traduire par l'image, ou du moins traduire totalement par l'image, l'obsession qu'elle faisait naître. Et c'est là que sa vie se joue. C'est dans cette insatisfaction qu'il trouve un biais. Et c'est la matière verbale, ce sont les mots, c'est la langue qui lui permettent de sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve. Son grand talent, je le dis à la fois avec admiration et avec affection pour lui, a été à la fois de le vivre, de le comprendre, d'en être lucide et d'en sortir. Et d'en sortir, c'était déjà quelque chose, mais d'en sortir au prix d'une œuvre de tout premier plan au niveau du langage. Ça me paraît essentiel, c'est le fond de l'affaire. Claude Simon est un peintre renoncé, mais qui ne quittera jamais l'image, la peinture, l'art. C'est-à-dire, tout au long de ses pratiques, et je pense que tout à l'heure, on pourrait s'intéresser à la structuration de ces récits, à l'agencement, à la façon dont certaines pratiques, notamment le collage, mais bien d'autres, ont pu avoir une importance sur lui, écrivant et écrivain. Voilà à peu près ce qu'on peut déjà dire en un premier temps de sa passion des images. C'est une passion qui est unique parce que la plupart des autres, de ses contemporains ou de ses immédiats devanciers, n'avaient pas eu ce rapport. C'était un beau rapport au visible. Et l'idée de bâtir, ce qui a été le propre de Claude Simon dans bien des textes, soit directs, soit indirects, notamment dans les récits, mais aussi dans des formes d'essais ou dans des formes de descriptions, de commentaires très personnels qui partent en rêve, qui se reprennent, qui s'oublient, c'est très intéressant. Mais les autres, eux, n'étaient que devant cette peinture. Et devant cette peinture, que peut-on inventer de plus beau ? C'est l'équivalence. C'est pas être un critique, c'est pas être un analyste, c'est être celui qui, d'une autre manière, c'est-à-dire par le langage, reconstitue la même chose si différente. Ça, c'est un principe que nous connaissons tous depuis Baudelaire, c'est le principe de pratiquement un grand nombre de créateurs. Claude Simon a cette différence que lui, il vient de là devant quoi il est. C'est-à-dire, ce qui est devant lui est en lui. C'est extrêmement important, à mon avis. Et ce que je trouve de plus touchant, probablement, dans son destin, c'est qu'un échec, enfin, à un très haut niveau, parce que Claude a été très sévère pour ses compositions, qui, je comprends très bien en quoi elles pouvaient le décevoir, mais elles étaient très belles. Et du reste, il a été sévère. L'autodafé, tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais l'autodafé, c'est très bien pour une fois. Pour une fois qu'un autodafé était bien. L'autodafé de soi-même, c'est toujours beau. L'autodafé des choses qui ont été faites par autrui, c'est moins heureux. Voilà. Mais pour tout le dire, lui était là avec une grande lucidité. Et ça, c'est très fort. Malgré tout, il y a une chose que je voudrais ajouter. c'est que dans cet abandon qui a permis si grandement l'expression et l'explosion de la langue, il y a toujours eu un à côté qu'il a gardé. Par exemple, sa pratique de la photographie. Par exemple, son besoin de dessiner, ses dessins. Il ne s'est pas interdit le dessin. Il a même fait mieux. Il a aussi bâti quelques-uns, peu nombreux à vrai dire, des grands collages ou assemblages d'images qui se bousculent dans un chaos très organisé, avec par moments, entre ces figures qui se chevauchent, qui s'entrelacent, des touches de couleurs que n'aurait pas dénié l'une de ses grandes admirations, Rauschenberg, par exemple. Ça, c'était un autre pan. L'autre pan encore, peut-être, c'est les quelques couvertures qu'il a souhaité faire, j'en connais trois, qu'il a souhaité faire pour des livres qui n'ont pas été réalisés comme couvertures, mais qui étaient au fond une composition absolument magnifique. Les trois sont tout à fait splendides. Et puis, on pourrait aller même plus loin encore. Le plan de ces manuscrits, ce fameux plan, ce fameux point de départ des manuscrits, avec ces touches colorées qui rythment les mouvements, mais aussi chaque éclat dans le mouvement, toutes ces reprises, toutes ces touches de couleurs de ces plans, c'est un souvenir et un hommage à ce qu'il a quitté. Donc, il va garder jusqu'au bout, dans ses photos, dans son dessin, et dans les quelques exercices que je viens de dire, au meilleur sens du terme, exercice, ce qu'il y avait au départ en lui et qu'il a dû abandonner pour faire la grande œuvre littéraire qu'il a fait. Voilà ce que j'avais, là, pour l'instant.
Donc, ben, écoutez, dans ce que vous avez dit, il me paraît que vous avez été témoin, ça a également été d'ailleurs mon cas, de ce réflexe qu'avait Claude Simon, quand on parlait de peinture avec lui, de partir dans sa bibliothèque et de revenir avec son héliphore, de prendre sa page et de commencer à lire de sa voix qu'on peut entendre, ce qui est très agréable au-dessus aussi dans l'exposition, et de lire invariablement les 10 lignes d'héliphore, notamment dans l'histoire des formes, qui tenait lieu de morale. Alors, Brigitte, est-ce que tu pourrais nous parler d'héliphore chez Claude Simon ?
Oui, oui. Le plus apparent, c'est ce qui se passe dans la bataille de Pharsale, où Simon met en scène un personnage désigné par l'initiale O, qui apparaît au fil du roman comme étant lui critique ou historien d'art, et qui annote ce qui apparaît comme étant livre d'Héliphore. Et c'est, alors, le montage textuel est très très complexe, parce que rien que ce que je viens de dire là, c'est un résumé qui ne rend pas du tout compte de la façon dont ça apparaît dans le roman, où on voit d'abord apparaître des fragments du texte d'Héliphore, et puis le personnage d'une autre manière, enfin bon. Et on peut synthétiser un peu en disant que la réflexion sur la peinture empruntée à Héliphore nourrit complètement la construction du roman et nourrit la réflexion surtout sur la représentation de l'espace qui est au cœur de ce roman qui, bon, s'intitule La bataille de Pharsale, est consacré à tout un ensemble de batailles, réelles ou picturales, et à travers ces batailles est une réflexion sur l'espace pictural et où l'espace de la bataille est l'espace dans lequel on vit. Et tout ça s'entremêle de façon aussi entremêlée que ce que je vous dis. Alors, on peut citer un court passage où il est question d'Héliphore, c'est le plus apparent. Je cherche la citation. Je ne l'ai peut-être pas d'ailleurs. C'est à propos de Dürer. Je ne retrouve pas. Oui, si, voilà. À propos du gros plan, en fait, la représentation d'une part importante de l'esthétique de Simon, qui est la fascination pour le gros plan. On en a parlé tout à l'heure à propos des cailloux, hein, ces fameux cailloux. Quelque part, ça vient aussi d'Elifort. On lit dans une histoire de l'art le chapitre sur les peintres allemands de la Renaissance. Jamais ils ne vont par le plus droit chemin au seul essentiel et au plus logique. Le détail masque toujours l'ensemble, leur univers n'est pas continu, mais fait de fragments juxtaposés. On les voit dans leurs tableaux donner la même importance à une hallebarde qu'à un visage humain, à une pierre inerte qu'à un corps en mouvement, dessiner un personnage comme une carte de géographie, apporter dans la décoration d'un édifice autant de soins à une horloge à marionnettes qu'à la statue de l'espérance ou de la foi, traiter cette statue avec les mêmes procédés que cette horloge, et quand, point de suspension, O sort de sa poche un stylo mine et écrit dans la marge « Incurable bêtise française ». Alors ça va à l'encontre de ce que vous disiez, mais il n'en était pas moins lecteur d'Elifort, ne serait-ce que pour, à certains moments, s'en dégager, puisque sur certains points, alors qu'il disait effectivement à tous ceux qui voulaient l'entendre son admiration pour tout ce texte et toute cette histoire de l'art, sur certains points, il posait son esthétique en opposition, notamment en valorisant beaucoup une approche de la peinture qui laisse plus de place aux détails ou aux détails apparemment sans intérêt, à la matière, aux petits cailloux, à l'herbe, qu'au sujet. Et c'est le reproche qu'ici il cite sur la peinture allemande, lui, dans son écriture, c'est beaucoup intéressé à essayer d'approcher de ce qu'il admiré particulièrement, notamment chez Dürer. À la fin de l'Acacia, on connaît ce passage magnifique où il évoque les dessins très exacts qu'il faisait d'un brin d'herbe pour essayer de reprendre le contact avec la réalité, reprendre le contact avec la nature qui lui permettait d'échapper à tout ce cataclysme et ce maelstrom d'horreur qu'il venait de vivre. Et c'est par ces dessins très exacts, à la manière de Dürer, mais Dürer qu'il découvrira plutôt par la suite, qui lui permettent retrouver le contact avec la vie, notamment. Je reviendrai plus tard, une autre occasion, sur le gros plan, notamment. Mais donc, voilà, Elifort, c'est à la fois une source, de même que aussi Gombrich, hein, qui va être sa grande lecture comme historien d'art, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas un regard critique sur Elifort, sur Gombrich, éventuellement.
Alors, c'est effectivement un aspect indiscutable de sa lecture d'Elifort que tu viens de mettre en évidence. Il y a un autre aspect, quand on a lu l'intégrale de l'histoire de l'art et surtout le cinquième tome de l'histoire des formes, parce qu'il avait une édition en cinq tomes, c'est la façon dont Elifort, à partir d'un ensemble artistique donné, par exemple les Babyloniens, que cite Claude Simon dans son œuvre, arrive à une sorte de représentation, je dirais, postérieure à Taine, de la race, pas au sens que ça a pris à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, au sens que Taine donne à ce mot, c'est-à-dire une espèce d'esprit commun à une collectivité, à une société. Il faut voir aussi, mais là je crois qu'il y a un historien parmi nous, que quand on dit ces civilisations-là, c'est sur des durées. C'est comme quand on dit le Moyen-Âge, ça va quand même du 8e au 14e siècle, ce sont des durées auxquelles nous ne sommes plus du tout accoutumés quand nous abordons ce que les historiens appellent l'histoire du temps présent, où là, 5 ans, ça devient déjà quelque chose d'énorme. Donc, Elifor, lui, aborde à la fois de manière très précise, comme Brigitte vient de le dire, chacune des époques qui titrent la succession de ces chapitres, mais chaque fois aussi à cette espèce d'élan romantique, pour le dire, ou en tout cas héritier de Michelet, qui lui fait apercevoir tout un caractère comme une sorte de super sujet de cet art qui aurait ses tendances, ses appétits, ses particularités, ses goûts esthétiques, et qu'on retrouverait chez les Babyloniens. Il met en évidence, par exemple, l'omniprésence des scènes de chasse, des supplices infligés aux vaincus, et du caractère à la fois viril et brutal de cet art. C'est Elifor qui dit ça. Et donc, il y a chez Elifor ce mouvement dont il me paraît qu'on peut l'observer dans les écrits de Claude Simon, qui vont du particulier à ces aperceptions panoramiques et d'une certaine manière quasiment épiques qui font une des scansions et dont on pourrait dire qu'il l'aurait déjà ressenti à la lecture de ces livres. Qu'est-ce qu'on pense, Yves Perret ?
Je voulais tout dire, le mot que vous avez employé qui est juste, c'est le mot épique, c'est-à-dire qu'il y a chez Elifor une dimension, beaucoup plus que chez Malraux, même beaucoup plus, une dimension d'épopée pour l'art et même d'épopée catastrophique en un sens, puisque pour Elifor, ce qui du reste, comme disait Claude Simon de ce point de vue-là, on le pense un peu tous et en même temps pense qu'Elifor a raison, mais que c'est un peu... Claude Simon dit il exagère, parce que au fond Elifor, lui, pour lui la peinture s'arrêtait à Cézanne. Après Cézanne, c'était le cinéma. Faut dire aussi que la date de décès d'Elifor explique tout ça. Il meurt très tôt dans le XXe siècle, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre histoire. Mais pour en finir et en sortir d'Elifor, il y a une chose, c'est qu'il était effectivement, je me souviens très bien, par exemple, de Claude Simon se précipitant pour lire la notice Uccello, pour lire le passage sur Uccello, le passage sur Dürer, le passage sur Bruegel, passage qu'il aimait beaucoup et avec justice. Parfois, il pestait. Et je crois qu'il avait raison aussi de protester, comme vous l'avez dit, parce qu'on proteste contre même les plus grandes admirations que l'on a, et il protestait contre Elifor de la même façon qu'il pouvait protester contre Stendhal, dont il admirait énormément la vie de Henri Brulard, mais dont il protestait de certaines choses, bon, effectivement, à juste titre ou à moins juste titre. C'est-à-dire que chacun peut protester sur certaines choses. Donc, sur Elifor, il protestait comme il protestait vis-à-vis de Stendhal, comme il pouvait dire que Chateaubriand était sublime et à un moment donné trouver que c'était moins. Bon, voilà. Bon, ça, c'est une appréciation. Mais malgré tout, c'était beaucoup plus que Gombrich, qui était effectivement une façon d'approcher un peu extérieur le fait considéré, à savoir l'art. Chez Elifor, c'était une manière d'approcher commune. Il y avait une communauté qu'il n'y a pas. Ce n'est pas la même attente. Chez Elifor, on vérifie son intuition. Chez Gombrich, on apprend des circonstances et des contextes, par exemple. Bon. Mais ce qui peut-être nous intéresse aussi dans ce rapport à la peinture, au-delà de ce que l'on vient de dire, mais qui est la même chose, c'est la manière dont cette peinture va entrer dans l'écrit. Ça, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs manières. La première des manières, la plus évidente, la plus, disons, on la perçoit tout de suite, elle est grossièrement visible, c'est quand Claude Simon, de deux façons, fait ce qu'on pourrait appeler une sorte de commentaire. Le plus manifeste de tous, parce qu'il est isolé, parce qu'il est comme ça, c'est « Femme », avec, mais surtout sur, Juan Miró, devenu plus tard la chevelure de Bérénice, légèrement réécrit. Voilà. Là, on a, au fond, une suite de fragments qui répondent, qui font écho, et qui parfois désignent, parfois traduisent, tout ce qu'on voudra, pour employer beaucoup de mots, les merveilleuses compositions de Miró retenues pour cet album. Claude Simon suit Miró, mais en même temps, il est Claude Simon. Donc, il est déjà à distance de Miró, il est dans ses mots, dans sa langue, dans son mouvement de langue, dans son lexique, et pour autant, il traduit Miró. Ce pourrait être, tout à fait différemment, dans les grands récits, les moments de commentaire de tel ou tel point. C'est-à-dire, ça peut être Boudin ou Monet, mais qui seront brisés, étirés, cassés, et qui reviendront sans arrêt, le même tableau se multipliant, revenant, par exemple, on peut penser à Triptyque, par exemple, des choses comme ça, bon, le tableau revient par ouais, le son de choses, enfin, tous ces livres-là. Et il y a cela, ça c'est les deux choses. Après, il y a déjà beaucoup plus subtil que Femme, par exemple, pour citer un livre mythique, Orion aveugle, et qui sera le début, plus tard, des corps conducteurs, qui reprendra les choses très autrement. Mais là, on peut dire que Poussin, Rauschenberg, bien sûr, tous les deux très fortement, donc deux... Un ancien, en somme un semi-ancien, quelqu'un de l'époque classique et quelqu'un qui est strictement contemporain, vont intervenir comme déclencheurs de langue, comme accélérateurs du processus d'expression qui serait celui de Claude Simon. Mais en même temps, il va s'écarter, bien évidemment. C'est un petit peu comme la réserve vis-à-vis d'Elifort ou vis-à-vis de Stendhal, c'est-à-dire qu'on est passionné, mais on s'écarte. Dubuffet, dans le même ouvrage, intervient aussi et également une manière d'intensité. Ça, c'est tout le corpus. Je ne parle pas des préfaces, où là, ça serait encore... c'est des textes qui ne sont pas de circonstances, qui peuvent être de modestie, ou au contraire, des textes prépondérants. Je ne parle pas de correspondance avec Dubuffet, quelque chose un peu particulier, magnifique et touchant, et bon, comme un peu aussi le tombeau d'une relation lorsque l'un n'est plus là. Bon. Mais il y a déjà ce premier point. Ça, avec... Puis, il y a aussi toute autre chose. C'est l'usage... de cette peinture ou de cet art qui n'est plus de l'ordre du commentaire. On oublie l'ancienne écrasie ou tout ce qu'on voudra, tous ces mots, tout ça, et qui est une dérive. Une dérive avec des passages, des oublis, l'oubli, des juxtapositions du même pour le démultiplier. Et puis, au-delà de cela, il y a bien plus que cela. C'est que Claude Simon, mais j'y reviendrai un peu plus tard, c'est peut-être l'objet d'un autre temps, va... structurer ces récits avec des modèles qui sont ceux de l'art. C'est très important. L'art intervient donc à tous les niveaux, à la fois comme description, on pourrait dire, on pourrait employer un mot grossier, une description d'un tableau, d'une statue, beaucoup de statues, beaucoup de tableaux, et puis une dérive où encore ça peut servir de modèles, par exemple, je ne sais pas, Kurt Schwitters ou le collage cubiste, peut servir de modèle à la structuration même du récit. Voilà.
Comme je compte essayer de le faire tout le long, je vais extraire de ce que vous avez dit quelque chose qui me paraît permettre de poursuivre cet échange. Et donc là, l'expression qui me paraît permettre un développement, disons, nouveau, renouvelé, quant au rapport de Claude Simon à la peinture, c'est votre expression « déclencheur de langue ». Il y a plusieurs modalités de déclenchement de la langue chez Claude Simon à partir d'un tableau. Dans l'exposition, chacun peut voir comment, à partir d'un tableau peint, Claude Simon choisit de dessiner ce tableau pour entourer son dessin d'adjectifs, de couleurs, d'adjectifs visuels ou d'adjectifs, si vous voulez, plastiques. des termes qui permettent de délimiter des formes, des tonalités. Et vous savez, certains sont là qui les ont même commentés, combien il aimait certaines notations de couleurs qui pouvaient se rapporter à des noms de fruits, à des noms de fleurs, plutôt qu'à des noms de couleurs, hein, ce qui ajoute à la couleur une forme de présence qui donne à cette couleur une sorte de vitalité par elle-même. On peut penser que Cézanne n'a pas cessé de l'influencer dans ces instants-là. Et donc, il y a un travail, parfois, qu'on peut observer de digestion de l'image en mots qui commence à se faire. Vous voyez, comme dans les films de science-fiction d'aujourd'hui, quand un personnage commence à se défaire par petits grains, je vais voir toutes sortes de films, excusez-moi. Et donc, on voit l'image, le tableau, puis le dessin de Claude Simon, puis les mots autour, et l'image devient du texte. Il existe deux documents qui pourraient intéresser des chercheurs ou des lecteurs du tramway, par exemple. Claude Simon a dessiné la place avec les grands palmiers dont il est fait état dans ce tramway et a entouré comme d'un feuillage de mots tous les arbres et toutes les végétations qui forment cette place et ce parc. Donc ici, on pourrait dire que ce lieu de Perpignan est déjà dessiné avec des traits qui sont des mots. Il est en train de se... Si on imagine un automne de ce dessin, les feuilles n'ont plus qu'à tomber et les phrases sont presque là. Vous voyez ? Et de ce point de vue-là, il y a un travail de digestion par le langage qui se fait très très littéralement pas à pas. Un des exemples les plus saisissants pour moi, mais je compte davantage sur Brigitte pour m'éclairer, c'est le cas de Novelli, parce que là il y a littéralement aussi un passage presque littéral de la peinture au langage sans qu'il soit besoin même de la prédigérer dans ce système de copies.
Oui, alors le cas de Novelli est un peu particulier dans la mesure où c'est un peintre que Simon rencontre à l'occasion d'une exposition à la fin des années 50, avec qui un peintre italien, donc bon, qui n'était pas très connu, avec qui il noue assez vite une amitié et qui va marquer l'œuvre de Simon d'une manière très inattendue, peut-être, dans la mesure où c'est certainement pas le peintre le plus connu parmi tous ceux qu'il évoque. Il l'est bien moins que Cézanne ou Miro ou autres. Mais malgré tout, peut-être parce que cela s'est doublé aussi d'une relation humaine, mais ce n'est pas la seule raison, parce qu'il a eu des relations amicales avec d'autres peintres, comme Soulages ou Buffy, qui ne sont pas présents dans l'œuvre. Avec Novelli, il y a une sorte de convergence entre la relation amicale, mais surtout la consonance des œuvres. Et Novelli est un des rares sur lesquels Simon va écrire vraiment un texte critique, une préface, enfin, de catalogue, qui a été republiée dans les temps modernes sous le titre Novelli ou le problème du langage. Le texte est de 62, hein, il est tout à fait étonnant la consonance qu'il a avec toute l'œuvre de Simon. On peut notamment voir, alors c'est un texte qui a été republié par mes soins dans les temps modernes et on y voit Simon maîtriser d'une manière totalement inattendue le discours sur l'art, hein, d'une manière dont il n'a pas, enfin, qui ne laisse pas forcément attendre dans ses romans. À travers ses romans, on voit bien qu'il a une très grande maîtrise de la peinture, qu'il est passionné de peinture, mais il, justement, à aucun moment, il ne, sauf peut-être dans le passage qu'on a cité sur Elifor et tout ça, mais il ne laisse que très peu de place au discours vraiment sur l'art. Alors que là, on se rend compte qu'il en a un, il analyse toute l'œuvre de Novelli, et il dégage à partir de cela une réflexion sur le signe qui va en fait nourrir toute son œuvre. On est étonné de voir que ce texte est de 62, parce qu'en fait il se retrouve de différentes manières dans toute l'œuvre. Bon, je cite simplement quelques passages de ce texte qui s'intitule de façon très significative « Novelli ou le problème du langage ». En réalité, à un certain moment, ses recherches chromatiques et graphiques, il y eut une brève période sans couleur où seul un graphisme noir animait la toile, cesse, laissant la place à une peinture de facture et d'esprit totalement différents, comme si Novelli était brusquement passé d'un pôle à l'autre, les couleurs, à plat géométrique et nettement délimitées, sont remplacées par des gris, des blancs calcinés, épais, dans lesquels se distinguent des taches incertaines, des formes à moitié effacées. Donc c'est un des rares textes où on voit Simon tenir un discours d'historien d'art, hein, c'est ce qui est assez étonnant. Mais après... on va tout à fait vers autre chose. Des murs sur lesquels la chaux s'effrite, sur lesquels les graffitis, les hiéroglyphes élémentaires, les inscriptions, les gribouillis se confondent en un désordre anarchique, se superposent, s'effacent. Sur les parois verticales, des habitations solides, palpables et indubitables viennent s'insérer les balbutiements, les fantasmes, les rêves. Et là intervient une citation prêté à Novelli, qui donne tout son arrière-plan à ce texte. « Après la guerre, dit avec pudeur Novelli, il ne dit pas l'enfer, le néant, la mort de Dieu et de l'homme, le degré zéro de tout, l'univers des camps et de la violence criminelle. Il fallait nécessairement recomposer une esthétique, reconstruire une civilisation. » Et comment repartir de zéro si ce n'est en prenant comme support les matériaux élémentaires, les seuls certains, les plus pauvres, les moins équivoques ou récusables, le plâtre, la terre, le sable. Et on voit à travers ce passage comment Novelli est en fait au cœur de la réflexion de Simon sur une reprise à zéro de tout ce qui concerne soit l'esthétique picturale, soit l'écriture, à partir de ce qu'on peut appeler rapidement le traumatisme ou l'expérience de la guerre qu'il avait en commun avec Novelli. Et d'ailleurs, la suite du texte fait référence à cela aussi. Voilà, donc c'est un des points notamment sur lequel il y a cette consonance très forte de Simon et de Novelli, c'est l'expérience de la violence et une sorte de table rase, hein, comme c'est un mot qu'il emploie souvent, qui va être faite à partir de cela et sur laquelle ils vont reconstruire leur œuvre. Alors, curieusement, le personnage de... parce qu'autant dire que ce texte de 62 paraît totalement... passe totalement inaperçu. Personne n'en avait absolument connaissance. Et c'est dans le Jardin des Plantes en 80... Jardin des Plantes Oui, enfin bon, non, c'est bien avant, c'est 97, Jardin des Plantes, oui, 97, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais. Bon, en 97, donc c'est dans le Jardin des Plantes qu'apparaît le nom de Novelli et qu'on voit de façon très étrange des listes de titres de tableaux qui... Dans le texte. Et puis, l'histoire de ce personnage. Alors, le peintre, donc, que personne à peu près ne connaît à l'époque, du moins en France, parce qu'il est beaucoup plus connu en Italie, le peintre apparaît rapidement comme un personnage de l'œuvre. Il y a même une partie de l'œuvre, du roman qui lui est spécialement consacrée. Mais on voit dès le départ des descriptions de tableaux de Novelli, des titres de tableaux, s'intercaler dans le roman. Et il apparaît que ce peintre a une très grande place dans l'œuvre. Voilà. J'ai fini.
Voilà. Vous pouvez parler de Novelli, vous voulez que je pose une question ?
Non, mais je vais partir de Novelli. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut tous se poser la question, que vous avez si bien résumé, c'est que Novelli... C'est à la fois un peintre qui surgit grâce à Claude Simon, pour nous, mais qui existait bien indépendamment. Moi, je me souviens, en Italie, on le voyait très bien. Novelli était très visible. En France, pas du tout. Personne ne le connaissait. Claude Simon avait un rapport à Novelli qui est effectivement un rapport humain. Mais il y avait beaucoup plus que ça, comme vous l'avez dit. C'était un rapport qui va de soi si on réfléchit une seconde. Quand quelqu'un a un goût prononcé pour l'œuvre de Miro et l'œuvre de Tapiez, pour l'œuvre de Rauschenberg et celle de Cy Twombly, on peut penser que Novelli arrive. Parce qu'il y a une communauté. Novelli s'inscrit dans ce mouvement-là. Donc, Claude Simon, s'intéressant aux autres, ne pouvait que s'intéresser à Novelli, d'autant qu'il l'avait connu. Et qu'il y avait une communauté, comme vous avez très bien dit, de reconstruction de soi et du monde. Hein, de ce fait-là. Bon, ça, c'est pour Novelli. C'est une chose. Peut-être, puisqu'on a parlé d'images dès le départ et des images en tout genre, il faut dire que ce qui fascinait Claude Simon, c'était non seulement la peinture, non seulement la statuaire, non seulement la fresque, mais aussi l'estampe sous toutes ses formes. Mais encore les arts populaires, les arts primitifs, les graffitis, hein, et même les magazines glacés sur lesquels on voyait des images qu'il fascinait tant. Voilà, il y a là un goût de l'image sous toutes ses formes. Je ne voudrais pas escamoter un point qui a son importance. C'est qu'un homme aussi éclairé quant à l'art, aussi proche des artistes que Claude Simon, n'a finalement réalisé avec un artiste qu'un seul vrai livre. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'autres formes plus modestes de dialogue. Mais le seul vrai livre, c'est « Femmes » que Mag a demandé à Claude Simon et à Miro. On peut s'interroger là-dessus, connaissant les admirations de Claude Simon et la contrepartie admirative des artistes pour lui. C'est, par exemple, pourquoi pas de livre, un autre livre avec Miro, avec Rauschenberg, avec Dubuffet, avec Tapiez, avec Garrache, ça s'imposait. Ça ne s'est pas fait. Ça reste pour nous un mystère. Et pour finir, bon, on n'a peut-être pas assez dit que ce qu'il y avait de formidable dans le rapport à l'art de Claude Simon, c'était l'éloignement du modèle, par exemple le tableau ou l'estampe, l'éloignement après une fidélité, il y a un éloignement qui fait que la langue s'accomplit parfaitement. Et l'éloignement, ce peut être aussi une forme de fidélité. Et cette fidélité sera rendue par la non-linéarité du récit, qui fait penser, bien sûr, au collage. Ça serait beaucoup plus long d'en parler, à tous les déplacements qu'il y a à l'intérieur du récit. Ça, c'est vrai. Et probablement, au bout du compte, ce que Claude Simon a réussi, c'est à dresser dans ses récits une équivalence d'une chose qu'il avait oubliée pour soi-même comme pratique et dont il oubliait les modèles dont il était parti, C'est-à-dire que sa langue était plénière, mais elle n'était pas sans rapport, au fond, avec les arts. C'est ça, l'histoire de Claude Simon, en fait. Voilà.
Alors, je voudrais vous dire que maintenant, dans une continuité assez cohérente, il va y avoir une présentation des relations de Claude Simon à la photographie qui va être assurée par M. Clément Chéroux, qui est conservateur du cabinet de photographie, j'aime beaucoup cette expression, qui s'occupe dans le centre Pompidou de la photographie.